Donc, bonjour, Église Le Sentier. Mais à tous ceux qui nous écoutent en ligne et aussi à tous ceux qui vont écouter ou entendre ce message un petit peu plus tard. Bon dimanche à tous. Mon nom, c'est Robert. Je suis un membre du conseil pastoral ici à l'Église. Et aujourd'hui, on continue dans notre série sur mes personnages favoris. Et comme vous pouvez discerner par mon accent, je ne suis pas évidemment francophone d'origine, je suis anglophone. Ça fait même 40 ans maintenant depuis que j'ai commencé ou que j'ai appris le français, mais je n'ai jamais perdu mon accent anglais en parlant français. Puis les anglophones, nous avons une expression pour le mort, une expression euphémistique. Et c'est « he kicked the bucket ». Et traduction littérale de ça, c'est « il a donné un coup de pied dans une seau ».« He kicked the bucket ». Mais de cette expression que d'une autre expression qui est probablement mieux connue, on parle d'une « bucket list ». Une « bucket list ». Et j'ai appris de ma fille, mais c'est même une expression que ma fille a été élevée ici au Québec et elle a grandi, elle a assisté à toutes les écoles français. Donc, elle m'a dit que oui, les anglophones utilisent l'expression, les francophones utilisent l'expression parfois bucket list aussi. Mais ça parle d'une liste de quelque chose qu'on veut accomplir avant notre mort. Puis, je ne sais pas si vous avez une telle liste, moi j'en ai une. Puis, il y avait certaines choses sur ma liste que j'ai déjà accomplies. Une des choses était de visiter l'Irlande, qui est un des pays ancestraux de moi et ma femme, Anne-Marie. Puis on l'a visité pour notre 30e anniversaire de mariage. Puis une autre chose que j'ai accomplie qui était sur ma liste, c'est de faire le traverse transcanadien en vélo. Je l'ai même eu l'occasion de le faire deux fois. Et je suis en train de travailler sur une autre chose sur ma liste, et ça fait environ un an que je travaille là-dessus. Je suis en train de faire publier un livre, un roman historique que j'ai écrit. Mais je ne sais pas si vous avez une telle liste. Mais peut-être pas les mêmes choses, certainement pas. Mais peut-être il y a quelque chose que vous voulez faire pendant votre vie. Peut-être visiter toutes les provinces du Canada, ou visiter un certain pays, ou accomplir quelque chose avant votre mort, comme j'ai dit tout à l'heure. Peut-être faire un voyage à Montgolfière. Je ne sais pas, vous pouvez avoir plusieurs choses sur votre liste. Ou peut-être quelque chose de plus par rapport à la famille. Aider vos petits-enfants à réussir à l'école ou réussir dans une équipe sportive. Mais j'ai une question un petit peu plus sombre à vous poser par rapport à cette « bucket list ». Que ferez-vous si vous saviez que vous avez moins de 3 semaines à vivre? Que ferez-vous si vous saviez que vous avez moins de trois semaines ou environ 3 semaines à vivre? J'imagine que la plupart de nous passera le plus de temps que possible avec nos familles, avec les gens qui sont proches à nous. Mais combien de vous, sachant que vous avez que 3 semaines à vivre, prendrait l'initiative de rencontrer quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré auparavant, quelqu'un que vous ne connaissiez pas, et vous prendre l'initiative de rencontrer cette personne et cultiver une relation avec elle? C'est la scène exactement de ce qui se passe avec notre Seigneur Jésus, qui fait partie de notre histoire, de mon personnage favori ce matin. Je vais avouer quelque chose à l'avance. Je vais en fin de compte parler un petit peu plus de Jésus. C'est pourquoi je porte le sandail ce matin. Je vais parler un petit peu plus de Jésus que sur notre personnage favori ce matin. C'est parce que l'attitude de Jésus qu'il a manifestée envers ce personnage m'a touché profondément dans une période basse dans ma vie. Et quelle était cette situation? Je faisais partie d'une équipe qui visitait Thaïlande et qui fait visionner le film Jésus en coopération avec les églises locales. Mais il y avait des malentendus entre moi et notre interprète. Il s'accordait très bien avec les autres membres de l'équipe. Je ne sais pas pourquoi, lui et moi, on avait certaines tensions, mais on vivait des tensions, lui et moi. Donc, une nuit, cette tension que je vivais m'a empêché de dormir. Et je me suis levé tôt, je crois que c'était vers 5 heures le matin, quelque chose comme ça. Et j'avais besoin de passer un petit peu plus de temps avec Dieu. Parce que je savais que j'avais une mauvaise attitude et je devais le confesser. Mais même après avoir confessé mon attitude, j'avais besoin encore d'un peu d'encouragement. Puis je me suis donné le but cet été pour lire et méditer au travers tout l'évangile de Luc. Parce que le film Jésus se base sur l'évangile de Luc. Et on l'a fait visionner quasiment tous les jours ou plusieurs jours par semaine. Donc, en lisant le chapitre 19, j'ai trouvé une histoire et la façon que Jésus s'est manifesté envers, l'attitude que Jésus a manifesté envers notre personnage Zachée, aujourd'hui, ce matin, on va examiner plus cette attitude de Jésus envers Zachée qui, en fin de compte, c'est la même attitude que Jésus manifeste envers chacun de nous. Mais avant d'aller plus loin, il faut comprendre un autre élément du contexte de notre histoire. Dans le temps de Jésus, Israël faisait partie de l'Empire romain. En 2024, cette année, il n'y a pas beaucoup de pays qui dominent d'autres pays. On a quelques exemples. Il y a évidemment la Russie qui a envoyé l'Ukraine, et donc il est en train de tenter de dominer au moins une partie de l'Ukraine. On sait qu'il y a un conflit entre Israël et les Palestiniens. Les Palestiniens se voient comme un peuple dominé par les Israélites. Ils n'aiment pas les Israélites à cause du fait qu'ils se sentent dominés. Mais dans l'histoire humaine, il y a peut-être des centaines d'exemples, peut-être même des milliers d'exemples des pays ou des empires qui ont dominé d'autres pays. Puis, ce qui est souvent la situation pour ces empires, ces colonisateurs, c'est de trouver parmi les peuples conquis, les peuples dominés, des collaborateurs pour faciliter la gouvernance et le contrôle de ces peuples dominés. Puis logiquement, une des raisons pour lesquelles un pays veut dominer un autre, c'est parce qu'il veut recueillir les richesses de ce pays-là. Puis, comme c'est souvent difficile d'attaquer les personnes, le pouvoir qui les contrôle, c'est plus facile pour les gens d'attaquer ou de critiquer les collaborateurs de les leurs. Et ils ont attaqué et souvent rejeté ces personnes. Et nous apprenons que Zachée était chef des collecteurs d'impôts. Ainsi, ses compatriotes le considéraient comme un collaborateur avec ces mauvais Romains, quasiment comme un traître. Puis, en plus, ils comprirent, en tant que collaborateur avec les Romains, qu'il avait quasiment l'impunité de la façon qu'il était pour agir pour collecter ses impôts. Il aurait pu tricher avec impunité parce que, au moins que les Romains recevaient le montant qu'ils cherchaient ou ils voulaient, ils pouvaient même exiger plus que les Romains parce qu'ils pouvaient tenter de s'enrichir avec la collecte d'impôts. Donc, ces peuples, les autres Hébreux, n'aimaient pas du tout les collecteurs d'impôts, n'aimaient pas du tout Zachée et ceux qui les représentaient. Ils étaient un paria social. Ils parlaient contre lui, ils l'évitaient. Et donc, Zachée a vécu un rejet social de son propre peuple tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, quasiment toutes les années de sa vie. Il vivait un rejet profond. Rappelez-vous d'un temps que vous étiez rejeté par quelqu'un? Peut-être qu'il y a des personnes même ici qui ont vécu un rejet dans leur propre famille. Ou peut-être qu'il y a même des époux et des épouses qui ont expérimenté un rejet par rapport à leurs épouses ou leurs époux. Ou peut-être lorsque vous étiez plus jeune, vous avez expérimenté le rejet lorsque vous avez tenté de faire partie d'une équipe sportive. Ou même maintenant, vous cherchez un emploi, vous avez expérimenté les rejets, les noms. Donc, tout le monde a vécu probablement un certain élément de rejet dans leur propre vie. Mais Zachée vivait ce rejet de son peuple continuellement. Puis fort probablement, Zachée avait entendu des oui dire par rapport à Jésus, qu'il était considéré comme un prophète, le Messie, ou comme malheureusement même les dirigeants, les pharisiens, les Sanhédrin, les autres peuples dirigeants de pays, ils l'ont considéré comme quelqu'un possédé par un diable. Il avait entendu toutes ces lui dire. Puis il avait certainement aussi entendu des rapports par rapport aux miracles de Jésus. Donc il a décidé, il voulait voir cette vedette, ce Jésus. Il n'avait certainement pas de l'espoir de lui parler, de le rencontrer et d'avoir un vis-à-vis. Il voulait juste le voir de loin. Mais on va découvrir que Jésus avait d'autres plans pour Zachée. Par un seul verset, en fin de compte, nous allons découvrir cinq attitudes de notre Seigneur Jésus envers Zachée, ensuite aussi son attitude envers chacun de nous. Jésus était, donc on va lire le texte. Luc, ça se trouve en Luc 19. Luc 19, vous pouvez tourner dans vos Bibles. Luc 19, versets 1 à 5. Luc 19, versets 1 à 5. Je vais lire le texte. Jésus était entré dans Jéricho et traversé la ville. Or, un homme riche, appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus, mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, le vit et lui dit, « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Il y a cinq éléments qu'on va examiner par cette simple expression, cette communication avec Jésus. D'abord, Jésus leva les yeux, Jésus a remarqué Zachée. Jésus lui dit, Jésus a pris l'initiative avec lui. Zachée, Jésus le connaissait par nom. Dépêche-toi de descendre. Jésus avait hâte de communiquer, de parler avec Zachée. Puis, il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. Jésus cherchait l'intimité avec Zachée. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais prier. Père éternel, je te remercie pour ta présence avec nous ce matin. Ton Saint-Esprit qui vit dans chacun de tes enfants. Seigneur, moi je livre un message, mais par ton esprit, parle à chacun de nos cœurs. Parle à mes frères et sœurs ici de ton attitude envers chacun de nous. Oui Seigneur, continue ta transformation dans chacun de nos cœurs, dans chacun de nos vies. Au nom de Jésus, amen. Donc, Jésus leva les yeux et le vit. Jésus a remarqué Zachée, Jésus nous remarque. On a parlé tout à l'heure du rejet. Maintenant, pensons à l'envers. Lorsque vous étiez petit, et peut-être moi je me souviens de ça, lorsqu'il était le temps de choisir les équipes, vous avez hâte que c'était votre tour d'être choisi. Ou peut-être vous faisiez déjà partie d'une équipe sportive, puis votre coach ou l'entraîneur a remarqué combien bien vous avez joué. Ou maintenant, dans votre boulot, comme travailleur, il y a votre patron qui remarque combien vous avez travaillé sur un projet ou combien vous êtes bien dans votre travail. Tout le monde aime être remarqué. Ou même dans nos propres familles, lorsque le mari ou la femme ou peut-être les enfants disent quelque chose par rapport, ils nous remarquent quelque chose que nous avons fait, on est toujours content. Et souvent, nous faisons des choses par exprès pour être remarqués. Mais la bonne nouvelle, c'est que rien de cela est nécessaire avec Dieu. Dieu est conscient de chacun de nous. Il nous remarque, il nous regarde en tout temps. Son œil est toujours sur chacun de nous. Rappelons-nous de Matthieu 10, versets 29 à 31. Ça sera affiché. « Ne vantons pas deux moineaux pour une petite pièce. Cependant, pas une ne tombe par terre sans l'accord de votre Père. Même vos cheveux sont tous comptés. N'ayez donc pas peur, vous valez plus que beaucoup de moineaux. » Évidemment, Dieu connaît chaque oiseau, selon ce texte, qui tombe par terre. Et comme nous sommes beaucoup plus importants que des moineaux, ils connaissent toutes les choses qui se passent dans nos propres vies. Puis, excusez-moi. parfois, nous pensons, oh excuse, il connaît même les nombres de nos cheveux et le nombre qui change même chaque jour parce qu'il y a des cheveux qui tombent chaque jour. Mais il y a peut-être des chauves parmi nous qui viennent dire, attends un moment, je connais le nombre de mes cheveux, c'est zéro. Mais en réalité, vous, les chauves, oubliez une chose. Vous avez le pelure sur vos bras, sur vos jambes, sur votre poitrine. Dieu connaît le nombre de tous vos cheveux de partout sur votre corps. Et même le nombre qui tombe chaque jour. Il connaît tous les détails de nos vies. Il est conscient des choses desquelles nous ne sommes pas même conscients. Il nous connaît parfaitement. Dieu nous regarde, Dieu nous remarque. Deuxièmement, Jésus leva les yeux et lui dit, Jésus lui dit. Jésus a pris l'initiative avec Zachée. Jésus prend toujours l'initiative avec chacun de nous. Jésus a pris le premier pas. Possiblement, Zachée avait rêvé de possibilités. Évidemment, il voulait voir Jésus. Il a peut-être rêvé, « Hey, est-ce que peut-être je vais l'occasion de lui saluer, lui peut-être jaser un tout petit peu. » C'était juste un rêve pour lui. Mais Jésus a pris l'initiative. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que dans les Saintes Écritures, Dieu prend quasiment toujours l'initiative avec les personnes. Et je vais noter trois, juste en parlant. Il y avait le temps que Jacob fouillait en Genèse, on parle de Jacob, un des qui fouillait son frère. Je n'ai pas raconté toute l'histoire. Mais pendant le temps qu'il fouillait, Dieu lui a donné un rêve d'une échelle qui montait au ciel. C'était loin de ses pensées à la cause du fait qu'il fouillait son frère, il voulait juste éviter d'être tué. Il n'avait probablement même pas pensé à Dieu. Mais Dieu lui a donné une révélation. Il y a deux dimanches, Sébastien nous a parlé de Joseph. C'est Dieu qui a donné les songes à Joseph lorsqu'il était un garçon. C'était pas Joseph qui a cherché ses rêves. Puis, Cossi nous a parlé dimanche passé de Moïse, qui a pris position avec les Hébreux plutôt que les délices dans le palais de Pharaon. Mais, après être identifié avec son peuple, il devait fuir parce qu'il avait tué un Égyptien. Je ne vais pas raconter toute l'histoire, donc il devait fuir. Puis, il a passé 40 ans dans le pays de Madian avec quelqu'un qui est devenu éventuellement son beau-père. 40 ans dans le désert en prenant soin des moutons. Excusez-moi. Et puis, combien souvent est-ce qu'il pensait à Dieu dans ces moments? J'ignore. Peut-être il avait beaucoup de temps, il méditait, je ne sais pas. Il n'avait pas de parole de Dieu en ce moment-là. Là. Donc, il n'avait pas de parole pour méditer. Mais, à un moment donné, Dieu s'est révélé à Moïse par le boisson qui était en flamme, ou le buisson, ardente. C'est Dieu qui prend toujours l'initiative d'attirer notre attention vers lui. En Romains 3, 10, 11, ça dit, « Il n'y a pas de juste, pas même un seul, aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. » Avant de connaître le Seigneur, avant d'ouvrir notre cœur au Seigneur, nous pensons peut-être que nous sommes à la recherche de Dieu. Et souvent, ce que nous cherchons, c'est plutôt une réponse à nos questions, l'aide dans une situation difficile. Et ce que nous cherchons, c'est souvent un Dieu à notre goût et non seulement le vrai Dieu. Mais, Jean 6, 44, Jésus nous enseigne, « Personne ne peut venir à moi, à moins que la personne qui m'a envoyé ne l'attire. » Dieu prend l'initiative de nous attirer. Puis en Jean 15, 16, Jésus a dit à ses disciples, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. » Et comme Dieu ne change pas, il prend toujours l'initiative dans notre relation avec lui. Ça veut dire qu'il prend toujours l'initiative dans tous les domaines de nos vies. Qu'est-ce que ça nous fait de savoir, ou je ne sais pas ce que ça vous fait de savoir que Dieu prend l'initiative avec vous? Mais pour moi, le fait que Dieu prend toujours l'initiative avec moi, ça m'encourage énormément. Parce qu'il y a parfois des fois que je suis déprimé, parfois j'ai péché, parfois je suis heureux. Mais dans tous les cas, Dieu, c'est à la recherche de moi, de chacun de nous. Même si parfois, il semble être loin. Parfois, il nous semble qu'il se cache. Mais ça, c'est juste un aperçu. Parce qu'il est toujours à côté de nous et il cherche à communiquer avec chacun de nous. Non seulement Dieu nous remarque, mais il prend toujours l'initiative dans sa relation avec chacun de nous. Jésus lève les yeux et lui dit, « Zachée, Zachée. » Jésus connaissait Jassé par nom. Jésus connaît chacun de vous, chacun de nous, par nom. Mettons-nous à la place de Zachée pour un moment. Il n'avait jamais rencontré Jésus. Il est juste une personne dans une foule de je ne sais pas combien de personnes. Le texte ne nous dit pas, peut-être une centaine de personnes, possiblement même 1000. Mais Jésus l'appelle par nom. Jésus connaissait déjà son nom. Comment ça? Moi, honnêtement, j'ai une mauvaise mémoire. J'oublie les chiffres, j'oublie les noms, et malheureusement, j'oublie même les visages. Et il y a peut-être des nouveaux parmi nous ici qui me rencontrent de temps à l'autre, et j'avais besoin assez souvent de vous demander, même si on s'est rencontrés déjà, de vous demander votre nom de nouveau parce que je l'ai déjà oublié, malheureusement. Et parfois, je suis toujours impressionné lorsque quelqu'un me rencontre que peut-être je ne l'ai pas vu depuis 1, 2 ou 3 ans et elle connaît toujours mon nom. Souvent, dans ces cas-là, c'est moi qui avais besoin de leur demander de nouveau leur nom parce que je ne les ai pas vus depuis 3, 4 ans et ils sont disparus de mon mémoire, je ne sais pas, en tout cas. Mais Dieu n'est pas du tout comme moi. Il n'oublie jamais nos noms. Il nous connaît tous. Et en plus, il connaît par nom les 8 milliards de personnes et plus qui habitent sur la planète en ce moment-ci. Il les connaît leur prénom, leur nom de milieu, leur nom de famille, et même il connaît tous les détails de leur vie. En plus, il connaît toutes les personnes qui ont déjà vécu sur toute la planète, dans toute l'histoire humaine. Il les connaît tous par nom. Donc, une de mes histoires favorites dans la Bible est l'appel de Samuel. 1 Samuel 3. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie, le prêtre. Quel âge avait-il? Le texte ne le dit pas. Il avait peut-être 10 ans, 13 ans, 16 ans. Moi, j'aime imaginer qu'il était déjà ado. Puis il était accouché, fort probablement déjà endormi. Puis il a entendu son nom. Il pensait que Élie, le prêtre, lui avait appelé. Donc, il est allé le voir. Mais il dit, « Non, non, ce n'est pas moi qui t'ai appelé, va te coucher. » Donc, il se couche de nouveau. Puis, il a entendu une deuxième fois son nom. Pensant que c'était Élie qui lui appelait, il est allé le voir, le prêtre. Puis, le prêtre lui dit, « Non, 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 ce n'est pas moi, va te coucher de nouveau. » J'aime imaginer qu'il se couche de nouveau. Excusez-moi. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas comment faire. Peut-être que je dois faire d'autres choses, en tout cas. Donc, j'aime imaginer qu'il s'est endormi de nouveau. Il a entendu une troisième fois Samuel. Puis il est allé voir de nouveau Élie le prêtre. Puis Élie a reconnu qu'il lui a donné un conseil. Il a dit, « Ah, lorsque tu entends ton nom de nouveau, dis... « Parle, car ton serviteur écoute. » Samuel se couche de nouveau. 1 Samuel 3, 10 dit, « L'Éternel vint se tenir près de lui. » Donc, j'imagine Dieu debout, juste à côté de Samuel, le jeune homme endormi. Dieu le regarde. Samuel a les yeux fermés, un visage tranquille. Il était inconscient de toutes les choses qui se passaient autour de lui. Puis Dieu appelle une quatrième fois par nom, Samuel, Samuel. Dieu n'est pas au ciel en disant, « Hé, toi qui habites à Ottawa, toi qui habites à Gatineau, ou si vous êtes en ville de Montréal, toi qui habites à Montréal. » Non, Dieu nous connaît tous par nom. Vous n'êtes pas juste un numéro à Dieu. Vous n'êtes pas juste un visage parmi des milliers à Dieu. Dieu que vous connaissez par nom. Adèle, Bernard, Catherine, David, Elisabeth, Florian, Gérard, Hélène, Isaac, Jasmine, Kevin, Lise, Marc, Nicole, je peux continuer. Et ça, c'est juste des mots alphabétiques. Et ce n'est pas tout le monde ici, évidemment. Non seulement Dieu nous remarque, non seulement prend-il l'initiative avec nous, Dieu nous connaît tous par nom. Notre texte continue. Jésus leva les yeux et lui dit, « Zachée, dépêche-toi de descendre. Dépêche-toi de descendre. » Ce n'était pas que Jésus était pressé de continuer sa route vers Jérusalem. Non, il avait hâte de passer du temps avec Zachée. Jésus a hâte de parler, de communiquer avec chacun de nous. Comme j'ai indiqué dans mon introduction, il ne restait à Jésus plus que 3 semaines à vivre. Mais il n'était pas ni trop agité, ni trop pressé pour vouloir passer du temps précis avec Zachée pour cultiver une relation avec lui. Et je voudrais que vous pensiez à une situation que vous avez vécue où vous attendiez peut-être de rencontrer un ami ou une amie que vous n'avez pas vu depuis des mois ou même des années. Peut-être un membre de la famille. Ma fille est allée voir quelqu'un qui n'a pas vu depuis un an, qui est à l'étude dans un pays étranger. Elle est là même en ce moment-ci. Elle avait hâte vraiment, non seulement d'aller visiter ce pays, mais de voir son ami. Donc, souvenez-vous de votre hâte, de votre anticipation, de votre avidité que vous ressentiez en ce moment-là. Je crois que Jésus expérimente la même hâte lorsque nous commençons à prendre du temps dans sa parole, de prier. Jésus expérimente cette même hâte de communiquer, de communier, de parler avec chacun de nous. J'ai lu dernièrement l'histoire écrite par un jeune soldat canadien qui retournait de la guerre. Sa famille avait beaucoup de difficultés avec le fait qu'il s'est enrôlé dans l'armée et qu'il était allé justement en guerre. Il était parti pendant pour l'entraînement et même dans la guerre pour environ 2 ans. À son retour, il voulait surprendre sa famille. Il n'avait pas averti ni son père, ni sa mère, ni ses 2 sœurs aînées de son retour. Il voulait les surprendre. Donc, je vais lire un petit peu ce qu'il a écrit. Je vais lire la façon qu'il décrit son retour. « Dans l'avion, je portais fièrement mon uniforme de classe A. J'ai pris un taxi depuis l'aéroport de ma ville natale. Je suis allé payer le chauffeur, mais il refusait avec un sourire. C'est avec plaisir, dit-il. Sac de marin à l'épaule, en uniforme, j'ai marché à la porte. Combien de fois avais-je rêvé de ce jour? Je suis entré. Mon père était dans le salon en train de réviser quelques papiers. Il leva les yeux pour regarder qui c'était. Salut, papa, dis-je en souriant. Il continue à me regarder comme s'il ne croyait pas ce qu'il voyait. Il s'est levé lentement, s'est dirigé vers moi, m'a attrapé par les épaules. Je pouvais voir ses larmes aux yeux. Il m'a fait un câlin d'ours, puis il s'est reculé un peu pour me regarder. Si je rêve, je vais me fâcher au réveil. Carrie, a-t-il crié, viens-toi. Ma mère est entrée dans le salon depuis la cuisine. « Qu'est-ce qui ne va pas, Jim? » Elle a demandé. Elle m'a vu et s'est arrêtée. Elle s'est lentement approchée de moi, les yeux remplis de larmes. Elle m'a regardé dans les yeux et m'a pris dans ses bras. « Oh, s'il te plaît, dis-moi que je ne rêve pas, que mon bébé est à la maison. Combien souvent ai-je rêvé de ce moment? »« Tu ne rêves pas, maman, » dis-je, les larmes aux yeux aussi. Elle m'a serré fort. Elle a posé sa tête sur ma poitrine et a pleuré. « Mon soldat est à la maison, » murmura-t-elle. « Dieu merci. » Non seulement Dieu nous remarque, non seulement prend-il l'initiative avec nous, non seulement Dieu nous connaît-il par nom. Je suis convaincu que Dieu a hâte de communiquer avec chacun de nous, de passer du temps avec chacun de nous, même plus que cette femme avait hâte de revoir son fils unique revenu de la guerre. Dieu a hâte de communiquer avec chacun de nous.
Et encore une cinquième chose. Jésus leva les yeux et lui dit, « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. Jésus cherchait l'intimité avec Zachée. Et Jésus cherche l'intimité avec chacun de nous. Imaginons encore une fois ce qui se passait dans la tête de Zachée. Comment ça se peut? C'est Jésus. C'est lui dont tout le monde parle. Il est le rabbi, l'enseignant, le professeur, le guérisseur, le faiseur de miracles, un grand prophète, peut-être même le Messie. Il veut rester chez moi. C'est incroyable. Mais imaginons son délice, sa joie. Et nous n'avons pas vraiment besoin d'imaginer parce que dans notre texte, ça dit que Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. Et pour Jésus, c'était un impératif. Il a dit, il faut. Il voulait absolument commencer et approfondir une relation avec Zachée. Une des meilleures façons d'approfondir une relation avec quelqu'un, c'est de passer du temps avec eux dans leur propre maison. Et que dit Jésus en Apocalypse 3:20? C'est un passage que tout le monde connaît. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre leur porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Avec qui est-ce qu'on soupe? On soupe avec les gens qu'on veut connaître. On soupe avec les gens, on veut cultiver la relation. Jésus veut souper avec chacun de nous. Il veut cultiver une relation intime avec chacun de nous. Certes, lui, il connaît déjà tous de nous. Il n'y a rien qu'on peut lui faire apprendre de nous. Donc, de son côté, il n'a pas besoin de cette intimité, mais nous, nous avons besoin de cette intimité. Plusieurs de vous connaissent le psaume 139. Je vais lire les premiers versets. « Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je m'élève. Tu discernes de loin mes pensées. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et toutes mes voix te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue que déjà, éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière, par devant, et tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi. Elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. » Évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, nous ne connaissons pas. Dieu nous le connaît parfaitement, même les choses que nous ne connaissons pas de nous-mêmes. Mais nous, nous connaissons, en fin de compte, peu de choses par rapport à Dieu. Nous sommes toujours en apprentissage. Nous avons besoin de cultiver notre intimité avec Dieu. Et Dieu a hâte que cette intimité soit cultivée. Donc, non seulement Dieu nous remarque, non seulement prend-il l'initiative avec nous, non seulement Dieu nous connaît tous par nom, non seulement a-t-il hâte de communiquer avec chacun de nous, Dieu cherche à développer une intimité avec chacun de nous. Je ne peux pas exprimer la reconnaissance, le réconfort, la joie que j'ai expérimenté ce matin-là en Thaïlande lorsque j'ai lu ce texte et j'ai vu l'attitude que Jésus a manifestée envers Zachée en sachant que c'est la même attitude que Jésus manifestée envers moi ou manifeste toujours envers moi. Et en fin de compte, à chacun de nous. Notre texte continue. On va lire verset 6. « Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. En voyant cela, tous murmuraient en disant, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je cause du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Zachée n'a pas hésité. Aussitôt que Jésus a exprimé ce désir envers lui, lui, il se descendait avec hâte. Et son cœur était rempli de joie, comme j'ai dit tout à l'heure. Son cœur a vécu une transformation radicale tout de suite, quasiment instantanément. Regardez ce qu'il disait, « Je donne aux pauvres la moitié de mes biens. » Zachée ne parlait pas de 10 % Zachée parlait de 50 %. Il est devenu un homme riche au travers de son travail comme chercheur ou collecteur d'impôts. Puis, il était prêt à donner la moitié aux pauvres, la moitié. Donc, un voleur est devenu un donateur extraordinaire, extraordinairement généreux. Donc, la réponse de Jésus à cela, il dit dans le verset 9, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Nous avons une des chansons que nous avons chantées ce matin, c'était « Jésus est à la recherche, il nous cherche. » Et notons bien ça. Ce n'est pas nous qui avons cherché, c'est Jésus qui nous cherche, qui prend l'initiative, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est lui qui se révèle, c'est lui qui nous transforme, c'est lui qui nous attire par son esprit, c'est lui par son esprit qui nous donne nouvelle naissance. Comment quelqu'un peut-il rencontrer le Dieu vivant avec un cœur ouvert sans être transformé? Et Jésus, à un moment donné, parlait avec un pharisien. Et il disait à ce pharisien qu'il devait être né de nouveau. Il disait que quelqu'un qui est né, évidemment, physiquement, commence toute une vie physique. Et quelqu'un doit être né spirituellement pour commencer toute une vie spirituelle, une vie qui dure jusqu'à l'éternité, la vie éternelle. Puis en 2 Corinthiens 5, 17, ça nous dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ou création dans certains textes. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Il y a des choses dans chacune de nos vies qui vont prendre toute une vie d'être transformées. Il y a des choses qui prennent des années d'être transformées. Mais assez souvent, le moment même qu'on ouvre notre cœur au Seigneur, il y a une transformation qu'on expérimente quasiment instantanément. Dans mon cas, j'avais cherché pendant toutes mes années à l'école secondaire pour une certaine compréhension de la vérité. Le moment même que j'ai ouvert mon cœur au Seigneur, je ne sais pas comment je l'ai compris, c'est seulement par le Saint-Esprit, j'ai compris, j'ai trouvé la vérité. J'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé la vérité. Et je savais. Donc, c'était une transformation instantanée dans mon cœur. Puis, je ne sais pas si vous connaissez cette intimité transformatrice avec Jésus. Peut-être que vous n'avez pas encore commencé cette relation intime avec Jésus. Sinon, j'ai quelque chose à suggérer. Que Dieu dit à Jésus, « Jésus, je me sens loin de toi. Je sais que je me suis détourné de toi par mes péchés. Je sais que tu es mort sur la croix. Tu es ressuscité le troisième jour. Je voudrais cette intimité avec toi. Viens dans ma maison. Viens souper avec moi. Change-moi. Transforme-moi, Seigneur. » Puis si vous dites ça au Seigneur Jésus, il va entrer justement dans votre vie. Et si vous avez même dit ça en m'écoutant, dis-le à la personne, à la fin de ce temps ensemble, dis-le à la personne à côté de vous. Ou peut-être vous m'approchez de moi ou un des autres pasteurs pour en parler. Donc, un grand nombre de personnes ce matin ont déjà vécu cette rencontre, première rencontre avec Jésus. Cependant, l'attitude de Jésus ne change jamais. Comme on a dit tout à l'heure, il nous remarque, il prend toujours l'initiative dans sa relation avec nous, il nous connaît tous par nom, il a toujours hâte de nous parler, puis il veut l'intimité avec chacun de nous. Je vais terminer par une histoire, et je vais les lire. Brenda, une jeune femme qui désirait apprendre à pratiquer l'escalade, s'est joint à une équipe, un groupe qui se donnait comme but d'escalader une grande falaise. En dépit de ses craintes, toute l'équipée est accrochée à la corde et commença à monter. Elle arrive à une saillie où elle peut profiter de quelques minutes de repos. Pendant qu'elle s'y accrochait, la personne au sommet claque de la corde par mégarde et celle-ci a frappé Brenda au visage et a délogé un de ses verres de contact. Comme vous pouvez imaginer, il n'y a rien de plus difficile que trouver un verre de contact, non seulement par terre, mais en pleine nature. Alors, voici Brenda à quelques centaines de mètres du sol, entre le sol et le sommet, de vision maintenant un peu troublée. Elle était loin de chez elle, et comment est-ce qu'elle va remplacer cette verre de contact dans un coin si reculé? Elle a décidé de prier et demander au Seigneur de l'aide à la retrouver. Elle cherchait, cherchait et cherchait encore sans succès. Son dernier espoir était qu'un membre du groupe le trouvait caché dans le coin de son œil. Parfois, les verres de contact déplacent un petit peu et on ne le ressent pas. Une fois arrivée au sommet, elle découvrait qu'il n'y était pas. Donc, ce n'était pas dans son œil. Elle s'est assise pour attendre le reste du groupe en regardant les montagnes qui l'entouraient. Le verset 2 Chroniques 16, 9 lui est venu à l'esprit. L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ce dont le cœur est tout entier à lui. J'ai une équipe de louange avancée. Elle a prié. Seigneur, tu vois ces montagnes. Tu as connaissance de tous les cailloux, de toutes les feuilles qui s'y trouvent. Tu sais exactement où se trouve ce verre de contact. Le temps venait de descendre la falaise. Arrivés au sol, ils rencontrèrent un autre groupe qui commençait leur escalade. Tout à coup, ils entendaient l'un d'eux crier « Hey, la gang! Quelqu'un aurait-il perdu un verre de contact? » Elle l'avait trouvé! Comment ça? Comment l'avait-il découvert? Elle l'a vu parce qu'une fourmi tentait de le bouger lentement sur la face de la falaise et ce mouvement a capté son attention. Qu'est-ce que cela nous dit par rapport à Dieu, le Dieu de l'univers? Y a-t-il quelque chose qui peut ou qui puisse lui échapper? Même les fourmis sont sous sa commande. Il les a créées. C'est lui qui a commandé à ces fourmis de bouger ou tenter de bouger ce verre de contact. C'est lui qui a fait remarquer cette action quasiment imperceptible par la personne qui l'a vue. Dieu vous